Bon, ceux qui ont été massacrés, et c'est disparaître. Donc, se permettre de mourir, c'est donner raison aux Turcs. Vouloir vivre, mais en étant éternel, c'est encore plus fou. C'est encore pas de la vie, puisque c'est impossible d'être éternel. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est pouvoir rentrer dans l'histoire. Effectivement, l'indépendance actuelle de l'Arménie, c'est un premier pas vers l'entrée dans l'histoire. Mais je voudrais qu'on se rappelle que tous les combattants, par exemple, les partisans, je ne parle pas de l'armée régulière arménienne, qui sont morts à ce jour au Karabakh ou sur les frontières d'Arménie, sont morts dans la hantise des fédaïnes de 1915. C'est-à-dire que toute cette troisième, quatrième génération a permis aussi de défendre un territoire et d'aller outre, tout simplement parce qu'ils étaient hantés par le fait que nos ancêtres, ou une grande partie de nos ancêtres, se sont laissés massacrer sans réagir. Tout à l'heure, on parlait de terroristes. Moi, j'étais très content quand on a tué un ambassadeur turc. J'étais très content parce que, enfin, j'étais plus un lâche. Ça, c'est pas nouveau non plus. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. Mais je l'ai jamais vécu comme du terrorisme. Après, les errances ou les erreurs politiques ou les erreurs d'action, c'est autre chose. C'est la capacité, quand je reprenais ce que vous disiez dans votre livre, de céder de sa part de jouissance. Mais avant de céder de sa part de jouissance, encore faut-il être convaincu qu'on en est. Aujourd'hui, en Arménie, le ministère de l'Éducation nationale, le ministre, M. Beleyan, veut interdire l'enseignement ou l'évocation du génocide dans les livres d'histoire. Entre nous, ça fait sourire le peuple. Parce que je ne vois pas quel arrêté ministériel, gouvernemental ou même de l'ONU pourrait commander à la mémoire d'un peuple ou d'un individu. Donc de la même manière que cette interdiction ou cette demande appuyée d'arrêter de parler du génocide pour ne pas faire souffrir nos enfants, de la même manière, le déni des Turcs ne pourra pas complètement régenter ma mémoire ou notre mémoire. C'est une des choses, quand je vous disais, aller vers autre chose, ces problèmes de reconnaissance de génocide, je ne parle pas pour les juristes ou les historiens, où ça concerne l'historien dans son travail, le juriste dans les procès qu'il va mener, et d'autres spécialités, ou le combattant qui va défendre nos frontières, parce qu'il faut les défendre, parce qu'aujourd'hui encore l'Arménie, elle peut être, c'est pas une parano, peut être détruite. Il faut voir comment les gens ont une peur bleue d'une attaque massive turque. Ce qui m'intéresse, c'est ma façon, moi, de combattre, c'est de sortir de cette espèce d'étouffoir progressif dans lequel le peuple arménien est aujourd'hui en train de mourir. Et non seulement parce qu'il a... Je ne parle pas de privation de carburant, d'électricité, de nourriture, ou que les gens gagnent 1 ou 2 dollars ou 3 dollars par mois. C'est parce qu'on ne peut plus penser. Ce que j'essaye maladroitement de vous dire, vous me pardonnerez, c'est que ce soit le génocide ou autre chose, tant qu'on ne transmettra pas une distance suffisante entre nous et notre histoire, on ne produira que des enfants stériles ou des enfants qui se buteront contre des murs de verre. Et il y a tellement d'autres choses. J'en veux autant parfois aux responsables de notre communauté ou à nos parents. Quand je dis je en veux, il faut le prendre entre parenthèses, de ne pas nous avoir, ou de ne pas avoir pu peut-être, nous permettre d'avoir accès à ce qu'aujourd'hui on peut découvrir ou dans une Arménie actuelle, même broyée, ou dans le cœur de nos survivants, ou dans la mémoire de nos survivants. Il y a toujours cette histoire de génocide qui nous empêche de sentir certaines odeurs. J'ai senti des odeurs étant enfant que je n'avais jamais connues, que j'ai retrouvées dans certains livres. Et ensuite, il a fallu que j'aille en Arménie pour tomber dessus par hasard. C'était une surprise. Pendant des années, j'ai cru que j'avais des hallucinations olfactives, que ce soit olfactives ou de mémoire ou d'image. C'est de pouvoir réintégrer le plus vite ce qu'on m'a légué et que je n'arrivais pas à identifier. C'est de comprendre pourquoi, pendant des années de ma toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, arménien, c'était un signe de joie et de douleur. Ce n'est pas propre qu'aux Arméniens. C'est pour ça que la question d'universalité, là, me préoccupe pas tant. Mais ce qui me préoccupe, c'est que nos enfants puissent être arméniens ou se sentir arméniens sans que ça soit aussi douloureux, sans que ça soit... Enfin, vous, ceux qui sont arméniens et ceux, ou d'autres, ça a été décrit par d'autres peuples et d'autres individus, c'est quasiment insupportable. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois que les différents spécialistes, dans leurs différents travaux et leurs différentes approches, ont pour mission une réappropriation d'un d'un héritage qui est vivant. Aujourd'hui, l'Arménie existe. Elle est, enfin, et je trouve que dans les générations en diaspora, le contact entre cette Arménie vivante et réelle et ces générations-là n'existe pas suffisamment. Je n'incrimine personne, je m'en prends pas au gouvernement ou à quelques partis politiques arméniens. Je voudrais simplement que j'ai un abus de jouissance, si je peux me permettre du terme, parce que l'abus de jouissance pour les Arméniens, c'est un début d'usage. Une dernière chose, peut-être, parce que pour la situation actuelle de l'Arménie, c'est qu'il reste pratiquement, enfin sur les chiffres qu'on nous a donnés, soit au séminaire qui a eu lieu, le séminaire international auquel j'ai participé pour le CRDA à Moscou et à Yerevan, il doit rester à peu près 1,5 million d'Arméniens en Arménie, même s'il y en a 300 000 de plus, je trouve que ça commence à faire pas beaucoup et ça commence à être dangereux. La position des Arméniens, en ce qui concerne ces questions, ce qu'on a évoqué, c'est pour la majorité des intellectuels, je ne dirais pas un génocide, parce que je n'ai pas envie de discuter sur les termes, c'est un massacre. Aujourd'hui, être un intellectuel en Arménie, pouvoir penser, c'est vraiment très difficile. Et puis là où ça pourrait peut-être concerner une épuration, même si elle n'est voulue par personne, c'est que l'état de l'éducation des enfants est très, très, très préoccupant. C'est-à-dire qu'on n'en est même plus à pouvoir intégrer ce que les uns et les autres ont dit. C'est comment permettre à ce que nos enfants pensent ou lisent. C'est pas du misérabilisme, c'est que peut-être qu'on en est aussi arrivé là parce que... Et réellement, je vais en finir là-dessus. En quoi on est responsable de ce qui nous est arrivé? Ça aussi, c'est une question qu'il est difficile de poser dans les milieux arméniens. Moi, j'en ai marre de toujours dire c'est la faute aux Turcs, c'est la faute aux Allemands, c'est la faute aux Russes, c'est la faute aux Juifs, c'est la faute aux je ne sais pas qui, aux Zimbabwe. Et les Arméniens là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Comment ça se fait qu'ils se font toujours massacrer? Comment ça se fait qu'il leur arrive toujours des malheurs? Je ne dis pas qu'on est masochiste, hein, je dis pas que... Mais il faudrait bien qu'on intègre notre histoire pour éviter un petit peu qu'on se maintienne dans cette position de survie. Voilà en tout cas ce que je voulais, avec mes mots, vous dire.
Merci, Erol Alexanian. Je ne dirais pas un témoignage, je pense que c'est un point extrême de théorisation. Quand Michel Marian a évoqué la notion de la réintégration, avec grande justesse, je crois que Erol Alexanian là nous a apporté, j'insiste, une théorisation de la question comment reprendre l'activité de la pensée après une destruction, après un génocide, et comment sortir de ce que, par exemple, quelqu'un comme Nadine Fresco, à l'endroit des enfants des déportés, elle a évoqué la nostalgie de la souffrance dans son article « La diaspora des cendres ». Comment aller vers la vie dans cette situation où la souffrance devient quasiment parfois un emblème? Et je crois que c'est un peu le sens de ce que me semble. Enfin, c'est ce que je mets au débat, le sens de ce que Erol Alexanian vient de nous dire. Je donne la parole maintenant à Serge Moscovici.
Je dois m'excuser d'être ici parce que je ne suis ni arménien ni spécialiste des questions du génocide, parce que c'est devenu un sujet extrêmement savant avec des centres de recherche, une littérature, une très vaste littérature, et on ne connaît même pas le vocabulaire finalement, ou je ne le connais pas, si vous voulez, le vocabulaire de ce thème. Pas seulement, je ne pense pas que c'est seulement le génocide juif qui est devenu un objet scientifique, mais le génocide arménien aussi, tous les génocides en général. Donc je suis assez vieux pour avoir vécu ce qu'on appelle un génocide, et je dois dire que je n'arrive pas à couler mon expérience dans les nobles concepts, puisque c'est des nobles concepts des spécialistes. Par exemple, je n'arrive pas toujours à associer le génocide au totalitarisme. Il y a beaucoup d'États totalitaires qui n'ont pas commis de suicide, et le seul le génocide, pardon, parce que je voulais parler de ça aussi. Et en Europe, pratiquement tout le génocide s'est fait là où les Allemands sont intervenus, comme disait mon ami Paul Celan, « Der Tod ist ein Meister von Deutschland ». Donc, pas de génocide et totalitarisme. Est-ce qu'on peut dire que partout il y a des États, on a du génocide? Est-ce qu'on peut attribuer le génocide à la constructuration de l'État ou de l'État totalitaire? Je ne pense pas. Je suis aussi gêné par ce débat, savoir si le génocide juif est unique ou pas unique. Je dirais que tous les événements, toutes les catastrophes sont uniques, mais elles ne sont pas nécessairement isolées. Donc, le fait qu'il y en ait plusieurs, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes. Il n'y a pas deux événements historiques qui se ressemblent. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs, qu'Hegel disait qu'on n'apprend pas de l'expérience historique. Et on n'apprend pas de l'expérience historique parce que chaque phénomène historique est nouveau. Je suis aussi gêné par l'aspect quantitatif, je dois le dire. On a fixé une sorte de zéro absolu qui est Auschwitz. Le critère, c'est Auschwitz ou rien. S'il y a 30% de tués ou 50%, alors il ne figure pas dans l'histoire des Juifs de Poliakov, je l'aurais dit même s'il était là, parce que je l'ai écrit, où il n'a droit qu'à quelques pages dans l'Hilberg. Que ce soit juif ou pas juif. Donc je pense qu'il faut partir du degré inversé. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de génocide. Ce n'est pas de partir de l'absolu Auschwitz. Je crois que pour des raisons diverses, même dans le langage qu'on utilise ici et là, on néglige beaucoup la psychologie collective des peuples. C'est toujours quelque chose qui vient en dernier lieu et au fond, on devrait le poser en premier. Je ne vais pas discuter pourquoi on ne le fait pas, mais je voudrais quand même vous rappeler deux faits qui me paraissent assez importants, que ces génocides sont faits dans des sociétés où il y a une lutte à mort, je dirais, entre la tradition et la modernité. Qu'elle s'est faite qu'ils ont eu lieu à l'époque de ce que Hobsbawm appelait l'âge des révolutions, où on pensait créer un homme nouveau. Et pour résumer mon idée, c'est que le nationalisme en général est virtuellement génocidaire. Ça peut vous choquer, mais c'est ma conviction expérientielle, pas scientifique. Alors, je ne suis pas arménien, mais j'ai connu beaucoup d'Arméniens, étant né dans une ancienne province de l'Empire ottoman, et donc il y avait des colonies. Et je dois dire que j'ai lu le Mouzadag de Franz Herzfeld quand j'étais très jeune, et je n'ai conçu une intense indignation, même avant d'apprendre l'existence du génocide. Je pense que ça suffit. Et je voulais dire à M. Ternon, dont j'ai beaucoup apprécié le livre, je ne vois pas pourquoi on doit comparer le génocide arménien au génocide juif, parce que vous le prenez comme point de comparaison. Je crois que c'est une histoire en soi-même, qui a son histoire, justement, qui s'inscrit dans l'histoire du peuple arménien, qui n'est pas la même que celle des peuples juifs. Et je dois dire, j'ai beaucoup de respect pour la psychanalyse, pour beaucoup de raisons familiales et autres, mais je ne vois pas pourquoi la névrose obsessionnelle serait-elle particulière, parce que je crois qu'en général, tous les nationalismes sont paranoïaques, quelque part, et obsessionnels. Je crois, moi... Personnellement, c'est d'une part, si je regarde le génocide arménien, vous m'avez fait réfléchir, puisque j'ai lu votre livre, je dirais d'abord, c'est lié non pas tellement à la chute de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman n'était pas turc, Hein, il faudrait quand même se rappeler ça. L'Empire ottoman a été, comme l'Empire austro-hongrois, un empire créé autour d'une cour, Habsbourg en Autriche, la sublime porte. C'est justement la naissance du nationalisme turc. Et vous en avez fait, dans vos livres, votre livre, vous avez parlé de ce mythe. Je vous fais remarquer que pratiquement tous les pays des Balkans, tous les pays de l'Allemagne aussi, étaient en train de se construire ces origines nationales. Hein? Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus, peut-être plus tordu dans cette affaire. C'est qu'au fond, la Turquie, l'Empire ottoman, a lutté contre les chrétiens depuis des siècles. Et je ne veux pas faire un développement ici très très long. Je crois qu'à un certain moment, il s'est tourné au lieu de lutter contre les chrétiens, comme ils ont lutté contre les Russes, les Roumains, ils sont allés jusqu'aux portes de Vienne, ils se sont tournés contre les Arméniens comme leurs propres chrétiens. Parce que je crois que le fait que les Arméniens soient chrétiens a joué un très grand rôle en lisant votre livre. Hein? Donc, je crois que le nationalisme turc et le fait d'avoir assumé quelque chose de l'islam, si j'y puis dire, dans la lutte avec le christianisme, a joué dans... Et après tout, les génocides, disons, dans cette lutte-là, on les a connus même avant. La question que je me pose quand même, c'est pourquoi... Alors... Ensuite, à propos de la reconnaissance du génocide juif, je ne suis pas tellement sûr qu'il a été reconnu. Il a été reconnu par l'Allemagne quand elle était vraiment à genoux, hein, c'est-à-dire l'État allemand a pratiquement cessé d'exister. Mais quand je regarde ce que, par exemple, ce qui fait l'Église catholique, l'épisode Auschwitz, etc., je me dis quand même, et j'ai lu ce que vous avez dit à propos des historiens, je me dis qu'après tout, la reconnaissance d'un génocide ne va pas de soi, ce n'est pas une histoire faite, on ne l'a pas dans la poche. Les Juifs, pas plus que les autres. Donc, je dirais que ça ne m'étonne pas, ce n'est pas pour excuser les Turcs, ça ne m'étonne pas que la Turquie a un problème à ce sujet. Je reviendrai sur ce problème. Hein? Donc il y a là un problème de la reconnaissance du génocide qui n'est pas simplement un problème légal, n'est pas seulement un problème politique, c'est un problème plus profond et culturel. Le fait qu'un État le reconnaît, mais qu'un peuple ne le reconnaît pas, c'est quand même un problème qui reste historiquement important. Alors, une autre question que je me posais en le lisant, mais pourquoi tient-on tellement à être victime? Pourquoi tient-on tellement à être génocidé? Je dirais que l'Holocauste est devenu le modèle, la représentation sociale dominante. Chacun veut être victime pour quelque chose, hein? Je ne vais pas faire la liste ici, mais on n'a pas besoin. On voit partout, chacun veut arriver un jour à être mis sur la liste des victimes. Et ça pose un problème de compréhension. Et je vais rejoindre d'une manière différente ce qu'a dit Harold. Je crois que le peuple, si le peuple arménien n'a pas réagi tel comme les peuples juifs à ce problème de génocide, c'est parce que c'est un peuple, d'après ma connaissance, plus discret et plus enraciné. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Les caractères des différents peuples sont importants. Nous avons tout de suite fait de ça un événement. Nous avons eu nos pleureuses, nous sommes allés chercher des prix Nobel et tout le bazar. Mais on a vu avoir un prix Nobel de souffrance. Mais en lisant aussi le livre Tournant, parce que c'est un peu un commentaire sur ce que vous avez écrit, je me suis demandé aussi si le génocide est un crime. Alors, comment sanctionnons-nous la complicité pour ce crime, la non-assistance de peuples en danger? Ça me semble quelque chose qui manque dans toute cette panoplie dont vous avez parlé. Et donc, je me demande si, après tout, le fait de demander le génocide est tout simplement un problème politique, un problème culturel, et s'il doit s'adresser uniquement à celui qui l'a commis, et non pas à tous ceux qui ont donné l'assistance, ce qui changerait les données du problème. Alors, je vais vous terminer par une anecdote personnelle. Vous savez, c'est un fait peu connu d'ailleurs, qu'après la guerre, la plupart des survivants des camps de concentration ont parcouru parfois pendant centaines de kilomètres à pied pour entrer chez eux, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, et ils furent reçus comme on pouvait l'attendre, avec des menaces, menus pogroms, et ils ont dû quitter à nouveau leur pays. Sinon, ils seraient rentrés chez eux. Et ils sont revenus tous, ont repris chemin, rebroussé chemin, toujours à pied ou par des moyens de locomotion parfois clandestines, vers l'Allemagne, vers l'Autriche et parfois dans les mêmes camps de concentration d'où ils sont sortis. Alors, pour des raisons qui me seraient trop longues à vous le raconter, on m'a envoyé pour assister ces groupes. Et je m'attendais de trouver des gens rompus, écrasés, silencieux, tels qu'ils sont décrits dans les différents livres sur les déportés aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on a aujourd'hui, c'est des choses dites 40 ans après, 30 ans après. Et moi, j'ai trouvé plutôt des gens pleins de vitalité, qui, bien sûr, chacun avait sa blessure, mais qui n'a pas sa blessure. Mais qui étaient, les uns étaient patients d'aller en Amérique, d'autres ils étaient impatients d'aller découdre avec les Anglais. Je raconte cela parce que je ne suis pas sûr que le génocide doit être entouré de pleureuses. Et je ne suis pas sûr que le génocide, en tant que tel, est un fondement d'identité, pour leur dire ce que je pense personnellement. Je dirais que les Juifs l'ont pris, le génocide, l'Holocauste, comme fondement d'identité. Ils l'ont substitué à la Gada de Pessah, qui était leur fondement d'identité, c'est-à-dire le fait d'avoir été opprimé, de s'être libéré de l'oppression. Et ça, c'est une chose que je sur laquelle je m'interroge. Je pense que celui qui réfléchit au génocide, il doit voir aussi qu'il a toujours échoué. Je ne connais pas de cas de succès du génocide. Je dirais que le génocide lui-même est un symptôme d'échec. Si vous regardez dans le détail, après tout, la solution finale a commencé à être mise en œuvre drastiquement quand l'Allemagne a commencé à perdre la guerre. Et je me rappelle avoir parlé l'autre jour avec quelqu'un à Budapest de cette époque, puisque vous savez, la Hongrie a des déportations. Il disait, je suis sûr que les Allemands ont continué à se battre pour pouvoir annihiler les Juifs. Donc il y a là un problème très, très complexe. Et je pense que ceci est vrai pour l'Allemagne comme pour la Turquie. On n'a pas affaire avec des victorieux ni avec des glorieux. Ni à des glorieux. Et en définitive, la seule chose que je voulais dire, le génocide est une part de l'histoire. Ce n'est pas une part de mémoire. La mémoire, c'est une chose qu'on l'a fait nous-mêmes d'aujourd'hui. L'histoire est quelque chose qui est indépendant de notre mémoire. Je pense que le génocide, et nous pouvons avoir bien des mémoires qui changent, et nous pouvons l'oublier aussi, parce qu'une partie de la mémoire, c'est aussi l'oubli. On ne doit pas culpabiliser celui qui oublie. C'est naturel d'oublier. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le génocide est un phénomène, c'est-à-dire c'est un fait important. Et la question que vous soulevez tout à l'heure, c'est, vous savez, il y a une proposition yiddish qui dit « Schwer zu sein Aïd », c'est difficile d'être un juif, c'est difficile d'être un arménien. Mais je ne pense pas qu'il faut s'enfermer dans le génocide. Il ne faut pas, je ne pense pas que ce doit être, enfin du moins c'est tel est mon sentiment, c'est ni un horizon historique, ni une sorte d'issue vers quelque chose, parce qu'après tout, le génocide est une catastrophe.
Voilà, je voulais remercier l'ensemble des orateurs et simplement je regrette d'être en position de président. Je dirais néanmoins que c'est toujours agréable, je dirais à Serge Moscovici, que c'est toujours agréable d'entendre quelqu'un dire à voix haute ce que parfois on n'ose pas toujours exprimer. Encore que, je crois qu'il y a simplement un ou deux points avant de passer la parole à ceux qui sont autour de cette table, puis surtout à la salle. Je demanderai donc à ceux qui sont autour de cette table d'être extrêmement brefs. Je voudrais simplement peut-être mettre en évidence un ou deux points qui me semblent d'ailleurs exister dans cette mosaïque que nous avons bâtie autour aujourd'hui. C'est que tout génocide est... témoigne que le lien social est déjà pourri dans l'État qu'il accomplit. C'est peut-être une hypothèse qui me semble tout à fait importante. Le point extrême du génocide, c'est son inutilité absolue. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à la fin de la guerre où les dernières pelletées de charbon servaient non pas à acheminer des armes vers le front de l'Ouest, mais à déporter des Juifs de l'Ouest vers l'Est, ce qui est quand même, au point de vue de l'efficacité de la guerre, des plus limités, mais c'est peut-être que la guerre avait fini par n'avoir plus qu'un seul but, le génocide. Je crois qu'aussi c'est extrêmement important d'individualiser et surtout cette dimension qui vient d'être mise en évidence et que les autres orateurs ont évoqué, c'est-à-dire l'oubli peut être fondateur d'un savoir. Serge Moscovici a parlé de psychanalyse. Je pense à cette phrase qui me semble tout à fait importante et je terminerai là-dessus. L'inconscient, ce n'est pas de perdre la mémoire, mais d'oublier ce qu'on sait. Ça s'inscrit dans l'inconscient parce que le travail de l'oubli soulage la blessure mémorielle. Et c'est parce que ça peut s'inscrire dans l'inconscient que ça peut aussi se transmettre. Mais là, je m'arrête là-dessus. Et puis, je ne sais pas si ceux qui sont autour de cette table veulent s'interroger mutuellement. Je crois que déjà Yves Ternon voudrait interroger Serge Moscovici. Puis, très vite, nous passerons la parole à la salle.
J'étais très heureux d'entendre Serge Moscovici parce que j'avais besoin d'une analyse en profondeur du travail que j'avais fait. Je voudrais donc lui répondre, non pas pour l'argumenter, mais pour m'expliquer. J'ai écrit un livre sur le génocide. Je ne pouvais quand même pas changer le fond de mon sujet. Et je l'ai écrit d'abord en historien, en pénétrant avec quelques gênes et quelques prudences dans d'autres champs du savoir qui ne m'étaient pas très connus. C'est pourquoi, quand j'ai étudié la psychologie collective, je me suis en particulier inspiré de votre Âge des foules. Et... il y avait des voies d'abord de ce problème. Non, mais je n'ai pas un reproche, je cherche à expliquer et à établir un consensus. Et la première des voies d'abord, c'était le respect. Hein. Je ne voulais surtout pas tomber dans le risque de la banalisation et employer à tout bout de champ le mot génocide. Donc, il fallait vraiment être très restrictif dans cette étude. La comparaison... elle va dans le sens de ce que disait Michel Marian tout à l'heure, celle de la réintégration de la mémoire arménienne. Il faut avoir vécu dans la communauté arménienne, comme j'ai pu le faire pendant une vingtaine d'années, et vivre également très proche de la communauté juive, pour savoir quelle était cette sorte de malaise, on peut dire, un certain complexe d'infériorité insupportable quand il s'agissait justement d'un complexe au niveau de la victimisation qui pouvait affecter la communauté arménienne avec son génocide qu'elle traînait non reconnu à côté du grand événement qu'était la Shoah. Et il m'est apparu absolument nécessaire d'expliquer pourquoi la communauté juive avait eu ce mal à concevoir, ce mal à penser, cette impossibilité même souvent à accepter de penser, et en quoi ce génocide était unique et non pas le seul génocide. Donc cette sorte d'argumentation rhétorique un peu subtile et pas toujours facile à expliquer. Et ce que je voulais surtout, c'était obtenir qu'il y ait, à travers cette compréhension pour les Arméniens de ce qu'était la Shoah et pour les Juifs de ce qu'était le génocide arménien, une sorte de suppression de ce malaise et une sorte de communauté de souffrance. Car ce qui m'a frappé dans tous vos discours et ce que je partage complètement, c'est cette souffrance. Cette souffrance qui est soit essentielle parce qu'il y a eu le drame, soit surajouté parce que ce drame, dans ce déni et dans tout ce qu'il a pu accumuler à travers ce déni, devient très vite insupportable. Et je crois qu'en tant qu'historien, ce que j'ai cherché à expliquer, c'est comment, à partir de composantes fondamentales que sont les éléments génocidaires, les structures génocidaires, qu'est un nationalisme, que sont les psychologies collectives et cet aspect de névrose obsessionnelle, pourquoi, à un certain moment, dans certaines circonstances, il y a une dérive. Pourquoi la menace qui est latente et souvent méconnue dérive et éclate dans cet excès qu'est le génocide. Et moi, je l'ai étudié en tant qu'historien, peut-être un peu juriste, avec le sentiment dominant de colère. De colère à l'égard de celui qui perpètre le génocide et donc à l'égard de volonté de prévenir et de réprimer, car la répression sert à prévenir ce qui peut être qualifié de génocide et plus largement de massacre génocidaire.
Merci. Alors, je crois que Hérold Alexanian et Michel Marion souhaitent intervenir rapidement, puis nous passerons effectivement la parole à la salle.
Non, j'étais en train de réfléchir aussi à ce qu'a dit Serge Moscovici sur le fait que le génocide ne peut pas devenir un fondement d'identité. Moi, je suis d'accord pour penser que pour les Arméniens, ce qui est le plus porteur d'espoir, d'avenir, c'est sans doute et d'ouverture au sens où on doit faire quelque chose et on ne sait pas ce qui va se passer, c'est la relation à cette Arménie en train de se construire. Mais je ne voudrais tout de même pas, jeter le génocide comme s'il avait accompagné une sorte de période historique et que maintenant il ne soit uniquement quelque chose qui nous amène à soit chercher des bénéfices politiques, soit cacher un vide symbolique. Je crois que si ce génocide est aussi important, c'est bien parce que il n'est pas circonstanciel. Il n'est pas circonstanciel. Vous disiez, le génocide, c'est une part d'histoire. Ben oui, c'est la part d'histoire qui est à l'origine de la présence des Arméniens dans les pays où ils vivent actuellement. Donc, de ce point de vue-là, c'est une part d'histoire qui est, d'une certaine façon, objective et inéliminable. D'autre part, c'est évidemment quelque chose qui retentit encore plus fortement lorsque il touche un peuple qui trouve des résonances dans le reste de son histoire. C'est-à-dire que pourquoi ces chrétiens se trouvaient là en Turquie ? Ben, ils se trouvaient là en Turquie parce qu'ils étaient les héritiers de gens qui, pendant des siècles, avaient finalement refusé la facilité qui était de se convertir à la religion majoritaire. C'était plus justement parce que finalement ils étaient pratiquement majoritaires nulle part, ils étaient des îlots de minorités importantes, de choses comme ça, mais c'était des gens qui avaient refusé cette facilité-là. Et donc, ce génocide, en ce sens-là, on peut dire peut-être qu'ils l'ont cherché. Mais en tout cas, qu'il y avait un retentissement sur toute l'épaisseur de l'histoire arménienne. Et puis enfin, le génocide, c'est donc un acte qui consiste à tuer des enfants. Et quand on veut transmettre quelque chose, je crois que l'une des choses à transmettre, c'est aussi que cette vie qui a pu être donnée par la suite, c'est une vie qui... à un moment, est une victoire contre ceux qui ont voulu la prendre à la racine. Donc je ne vois pas en quoi le fait qu'il puisse y avoir un rétrécissement, voire une utilisation du génocide, doit nous priver de continuer à réfléchir sur, non pas seulement sur ce qui s'est passé, mais sur le lien entre ce qui s'est passé et tout le reste de l'histoire arménienne, et pas seulement arménienne.
Oui, moi je voulais vous, je vous ai dit que j'allais parler, j'ai peut-être oublié de consultation, pour répondre à ce qu'il disait, ou peut-être pour aller dans le sens de ce qui se dit. Je vais vous donner l'exemple d'une petite exemple de consultation en Arménie, mois de mai 89. Je vois arriver, comme d'habitude, chaque fois qu'on donne un rendez-vous à quelqu'un, on s'attend à ce que la personne vienne seule, toute la famille débarque. Au bout de quelques mois, on a renoncé à expliquer qu'il y a un entretien psychologique, il fallait venir seul. Je me suis dit, je vais faire avec les habitudes des autochtones, et puis après tout, je suis arménien. Puis il y a peut-être quelque chose à faire avec cette façon de venir en groupe. Et effectivement, il y a une femme qui est venue d'Etchmiadzin, des régions, des villages, pas de la ville même, un des villages d'Etchmiadzin, avec, pour aller vite, ce qu'on appellerait un délire religieux, et qui n'arrêtait pas de faire des signes de croix, des génuflexions, de me dire tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Jésus, tu es venu de la diaspora pour nous sauver. Et dans ces 25 personnes, il y avait donc le mari et le fils avaient été atteints de ce discours religieux, pour ne pas le qualifier, et s'en étaient sortis, étaient venus pour me demander de faire quelque chose pour cette femme. Il y a le frère du mari qui s'est approché, qui est un paysan, qui ne sait pas ce que c'est que ni la... pas parce qu'il est paysan, mais celui-là, il ne savait pas ce que c'était que la psychanalyse et d'autres disciplines, et qui m'a dit, je sais que vous soignez d'une certaine manière, et je viens vous apporter quelque chose d'important pour vous. Elle a perdu 14 enfants jusqu'à l'âge... Enfin, soit c'était en couche, soit jusqu'à un an. Aucun enfant n'a dépassé l'âge d'un an. Et à chaque fois, ils ont eu le même nom. Bon. Mes copains psychologues arméniens à côté qui commencent à blanchir, non pas sur ses propos, mais étaient manifestement mal à l'aise. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, mais on peut pas soigner cette femme, même si tu restes 5 ans ici, c'est pas possible. Il faut qu'on ait le temps d'être formé pour pouvoir prendre cette femme en charge. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est que je me retrouve devant une femme. Je suis convaincu qu'elle est pas folle. Vous m'excuserez, je suis peut-être un mauvais spécialiste. J'ai l'impression qu'elle est hantée. Il y a des fantômes comme ça qui viennent l'empêcher d'avoir un rapport à la vie, à la réalité, aux autres et à l'histoire. Et je lui dis, je suis à court d'arguments, je lui dis dans mon arménien, je lui dis, voilà, moi je crois que vous n'êtes pas folle. Vous portez le poids d'autres, des douleurs d'autres. Et elle commence à souffler, vraiment à se dégonfler. Et à me dire, ah oui, 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 c'est vrai, c'est pas ma douleur. Et je sens là qu'il y a une ouverture, je peux parler de personne à personne, je ne suis plus en face d'une icône parlante, ou d'une espèce de représentant de synthétique de l'Église, et je lui dis, mais au fait, vous êtes de quel village? Je cherche moi aussi mes origines, ou des bouts de survivants du village de mes grands-parents, et elle tombe pile, c'est le hasard, elle tombe pile sur le même village, c'est même pas la ville ou la région, c'est le même village que mon grand-père paternel. Et elle me dit, je lui explique, je lui dis, ben voilà, moi aussi, je viens de là. Et elle m'explique qu'il y a eu dans sa famille, suite à cette histoire de deuil ou de douleur des autres, elle me dit, on a tué 14 membres dans ma famille, c'est peut-être qu'un hasard. Alors je ne voudrais pas faire des théories, mais je voudrais dire qu'il y a des choses qui viennent encombrer comme ça, des générations après, le devenir. Alors, dans mon propos, c'était d'intégrer, c'était de dépasser, c'était pas de mettre le génocide de côté, c'était en tant que père de l'intégrer, le plus père, parce que je pense que je suis de sexe masculin, c'est de réintégrer le fait d'être père, homme, désirant, et d'être aussi, enfin, on est un mari ou un compagnon. Ces trois choses, ne pas les confondre. De la même façon pour les femmes, qu'elles ne soient pas que des mères, que nos femmes ne soient pas que des mères, et des mères qui souffrent. Et puis je voudrais remercier deux personnes au moins. L'une est encore vivante, c'est Ilson Rath qui a écrit le conte de la pensée dernière. Et je voudrais non pas vous convier à lire ce livre, parce que je n'ai même pas de royalty sur ces ventes, mais parce qu'il faudrait qu'on accède à cette pensée dernière de l'ouvrage d'Ilson Rath, nous arméniens en tout cas. Et puis Leibovitch, vous m'excuserez si je prononce mal son nom, qui est mort, je crois, en Israël. Un jour où j'étais désespéré, je me disais, il n'y a vraiment plus rien à faire, c'est même pas la peine d'essayer d'être arménien ou d'être quoi que ce soit. Et j'ai écouté à la télévision, et c'est cette chose moi, pour laquelle je voudrais, sans ironie ou sans humour noir, remercier les Turcs. Quand ils ont génocidé les miens, ils m'ont obligé à réfléchir et à refuser d'obéir aveuglément à la loi. Je reprends un peu, à ma façon, les propos. Non, mais il n'y a pas de provocation dans ce que je dis. Alors je vais le dire autrement, je vous prie de m'excuser. C'est le fait que Leibovitch disait, ce n'est pas uniquement ou ce n'est pas essentiellement parce que Eichmann a tué des juifs qu'on l'a jugé et condamné, c'est on a condamné le fait d'obéir aveuglément à la loi. Vous pardonnerez ma maladresse, j'ai voulu dire que au moins il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est que jamais moi-même ou mes descendants, en tout cas, je m'en chargerai, je n'obéirai de cette façon aveugle à la loi. Voilà.
Merci. Serge Moscovici, quelques mots, puis il faudrait...
Oui. Mots, je ne sais pas. Là, je dirais que c'est une règle de survie dans un camp de déportation de ne jamais obéir aux règles. Mais... mais moi, j'étais pas. Il ne faut pas me comprendre mal. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas penser au génocide, qu'il ne faut pas... qu'il faut l'oublier comme ça... je parlais d'une manière plus vaste de la place du génocide dans l'histoire. Et moi, par exemple, ce qui concerne les Juifs, je peux dire, je me demande parfois si le génocide n'est pas un substitut au fait que ce qu'on appelle les Juifs ne le sont plus. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'autres fondements culturels. Les générations antérieures avaient un fondement culturel qui était une certaine langue, une croyance religieuse, etc. Maintenant, ils ne l'ont plus. Donc, il y a là un sort de point de ralliement que tout le monde comprend, qu'on croit, qu'on ne croit pas, qu'on la culture ou pas la culture. Et là, c'est un autre débat. Mais c'est pour ça une des raisons pour lesquelles je ne pense pas que c'est un point d'identité. Je pense que ce qui fait une identité, c'est une certaine représentation participée, partagée, c'est une certaine culture. Ce n'est jamais qu'un événement unique, une catastrophe. Hein. Et après tout, c'est mon opinion et je ne voulais pas l'imposer à qui que ce soit.
Alors, je propose que la salle puisse réagir. Je voudrais simplement, excusez-moi, je pensais que quelqu'un lirait, signaler que Léon Poliakov a envoyé un très long texte en demandant qu'il soit lu. Je ne le lirai pas en entier, je lirai les cinq premières lignes et les deux dernières. Comment je n'ignore pas que les Arméniens ont eu un passé glorieux qui, dès le VIe siècle, Moïse de Choren a décrit leur résistance à la Perse et le refus d'abandonner le christianisme, et qu'au Xe siècle, Grégoire de Narek a rédigé des chefs-d'œuvre de poésie religieuse. Mais surtout qu'à la fin du XIXe siècle, le sultan Abdulhamid a fait massacrer près de 150 000 Arméniens, tandis qu'au cours de la Première Guerre mondiale, plus d'un million d'entre eux a été massacré. La Turquie reste un État barbare qui refuse depuis près d'un siècle de faire pénitence, puis il y a un très long développement sur la Deuxième Guerre mondiale et il termine. Certes, depuis l'Allemagne, après avoir fait amende honorable cet assagi, il ne reste qu'à espérer qu'un jour ce sera aussi le cas de la Turquie. Voilà, je voulais simplement lire ces quelques phrases de Léon Poliakov. Je transmettrai l'applaudissement de monsieur. Et donc, si vous voulez, dans la salle, réagir, c'est le moment ou jamais. Nous avons au maximum 30 minutes. Donc, posez des questions ou alors portez des témoignages brièvement. Voilà. Janine Altounian qui veut prendre la parole.
Oui, puisque vous avez eu la gentillesse de faire allusion à moi, je voudrais développer un petit peu ma pensée. Quand vous avez dit parler arménien avec un grand A en français, cela c'est pour rejoindre certains points qui ont été évoqués ici, et en particulier le pouvoir penser et le fait que la reconnaissance du génocide n'est pas véritablement peut-être la chose centrale que recherche tout descendant d'un tel événement. On a l'habitude de penser que il y a d'un côté la pensée et de l'autre la langue. Et comme si tout Arménien qui irait au Berlitz School et qui apprendrait le français, donc, pourrait penser en français de façon efficace. Or, ce que l'on a perdu dans une extermination, ce n'est pas seulement des biens, ce n'est pas seulement un territoire, ce n'est pas seulement des vies humaines, mais c'est la faculté de penser, plus dans sa langue, puisque son pays n'existe plus, mais dans la faculté qui ferait qu'il faudrait acquérir la langue des autres. Or, la langue des autres, c'est précisément la langue de ceux, comme le dit M. Moscovici, qui ont été complices. C'est une lente complice en tant que non-assistant. Or, cette procédure dure un très grand nombre de générations parce que pour apprendre à conceptualiser dans une langue qui est d'un autre territoire, d'un autre univers, qui est donc l'Occident pour des pays d'Orient auxquels appartiennent les Arméniens, pour apprendre à conceptualiser, à savoir nommer ses affects, à pouvoir entrer dans le conflit juridique, institutionnel. Je pense que le conflit juridique n'a rien de mauvais, mais évidemment, il faut en avoir la langue. Il ne faut pas nommer maladroitement ce qui nous est arrivé. Or, ceci nécessite un grand nombre de générations. Et je pense que c'est parce que on